RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, vous êtes avec les grandes gueules, c'est en direct sur RMC, RMC Story. C'est vous qui prenez la parole, comme tous les jours, bien sûr, avec nous au 32-16. Aujourd'hui, avec Florent Guébaly, l'entrepreneur à la transition écologique, l'avocat Charles Consigny et le chef d'entreprise Emmanuel Devilliers. On va évoquer la crise des carburants, la hausse des prix, bien sûr, et ce que le gouvernement attend de Total et des distributeurs.
Servez-vous en samplon 95.
Pétrole en mousse bloqué, fini les pétroliers. La France déplace l'armée sans aucun intérêt. Puer sa chambre tout, l'Iran touché partout. Le désordre des miroirs,
encore une mienne, non?
Ça va être le refrain du moment, Détroit d'Hormuz bloqué. Bien sûr, ça va être le tube de l'été. Dans tous les cas, aujourd'hui, le Premier ministre refait venir les distributeurs et il attend de Total ce qu'il appelle un plafonnement généreux des prix à la pompe.
Oui, c'est assez curieux parce que, enfin, c'est curieux et malin de la part de Cornu parce que Total, c'est un bouc émissaire facile dans cette crise. Je rappelle que ce n'est pas Total qui a provoqué la crise énergétique qui touche la France et d'ailleurs le monde entier. Non. Mais le Cornu, assez habilement, a trouvé une cible, Total, et supplie Total d'aller plus loin dans le plafonnement des prix à la pompe alors que le gouvernement lui-même ne le fait pas en expliquant qu'ils n'ont plus d'argent. On va quand même rappeler deux, trois trucs. Tout d'abord, il y a seulement 30% des stations-service qui sont des stations Total en France. Donc il y en a 70% qui ne sont pas Total. Total fait zéro bénéfice en France. J'ai vérifié, par exemple, en 2025, Total n'a pas payé d'impôts sur les sociétés en France parce que il n'y avait pas de bénéfice imposable. En fait, les 13 milliards de Total sont faits à l'étranger. Et donc ceux qui proposent d'une façon assez démagogique, comme Olivier Faure ou Jean-Luc Mélenchon et même Marine Le Pen, de taxer les super profits de Total, ce n'est pas possible puisque ces profits ou ces super profits sont faits à l'étranger et notamment en Afrique, au Moyen-Orient, là où Total extrait le pétrole et le gaz, mais pas en France. Et puis la dernière chose, c'est quand même, moi personnellement, j'ai fait l'expérience cette semaine parce que j'étais à la campagne, donc là on est obligé de faire le plein, mais c'est moins cher chez Total que chez Leclerc. Et tout le monde va chez Total. Donc en fait, on devrait dire merci monsieur Pouyanné parce que grâce à vous on paye un tout petit peu moins cher que chez monsieur Leclerc qui pourtant donne des leçons sur tous les plateaux matin, midi et soir. Voilà, mais c'est comme ça, Total c'est le grand méchant.
Alors est-ce que Total doit en faire davantage encore? Est-ce qu'il doit faire son plafonnement généreux? C'est pas assez généreux là d'être capé jusqu'à la fin de la crise, hein, c'est ce qu'a promis Total, Charles Consigny.
Moi, j'ai fait le plein aussi ce week-end à 2,20 € je crois le litre de Samplon 98, pas intégral parce qu'apparemment il y a des siphonnages d'essence sur les parkings publics. Or, je laisse ma voiture sur un parking public, donc j'ai fait attention à ça. Et oui, il y a des choses comme ça très triviales. Je pense que Total fait, franchement, se montre patriote dans cette crise. Je suis pas sûr que leur demander à eux de faire plus que ce qu'ils font soit forcément la bonne solution. Et je crois que depuis le début de cette histoire, Sébastien Lecornu fait beaucoup de politique. Il temporise, il reporte, il dit on va voir, il dégaine 2-3 chèques qu'en fait les gens ne peuvent pas toucher parce que c'est des usines à gaz. Voilà, il joue la montre. Et encore une fois, c'est son mandat à Matignon sur tous les sujets. Hein. Donc il est rompu à l'exercice et au raisonnement. Il est là pour jouer la montre sur tout.
Pour tenir un an.
Sur les débats parlementaires, sur les non-réformes, sur absolument tout. Il est là pour jouer la montre. Et à mon avis d'ailleurs, il joue la montre aussi pour lui-même, pour se frayer, qui sait, un chemin vers l'échelon du dessus. J'ai vu qu'il était ce week-end, le 1er mai, avec Laurent Wauquiez, sur les terres de Laurent Wauquiez, dans une boulangerie. Je pense que ça n'est pas par hasard s'il va sur les terres d'un des leaders de la droite. Je pense que c'est une manière d'aller chercher un peu à droite, voilà, et de marcher sur les plates-bandes d'Edouard Philippe et d'Armanin et consorts. Donc je pense que c'est de la politique et je trouve ça un peu démago, même si Total, à mon avis, doit faire le maximum pour les Français et c'est comme ça que cette entreprise se fera aimer des Français.
Alors nous avons ce matin d'ailleurs la réunion Parole en Lescure.
des distributeurs qui ont été invités.
Ils sont régulièrement
au ministère. Alors on a le briefing qui vient de nous parvenir de Roland Lescure. Bonjour à tous et bienvenue. Je vous remercie véritablement de vous être déplacés ce matin. Vous le savez, les Français sont en attente. Le temps de l'action est venu. Nous devons réfléchir à des lignes de force débouchant sur des propositions de nature à porter des améliorations de tarifs. Je vous propose à toutes et à tous un tour de table de 2 heures et j'indique que nous poursuivrons nos échanges dans le cadre du déjeuner.
À peu près ça, comme ça que ça va se passer.
Je vais aller dans ton sens. J'aimerais juste qu'on récapitule la situation. Donald Trump, c'est à la portée de tous. Hein. Donald Trump, le président des États-Unis, a décidé d'attaquer l'Iran. Okay. L'Iran a décidé de fermer son détroit, le détroit d'Ormuz, par lequel passe la plupart du pétrole qu'on consomme en Europe. À partir de là, nous sommes bloqués. Pourquoi le gouvernement français nous fait croire qu'ils ont la main sur ce qui est en train de se passer ? C'est ça la question. Et si j'étais Sébastien Lecornu, je dirais aux Français, je n'y suis pour rien et je ne peux rien faire.
L'État prend quand même 56% de taxes sur ce qu'on achète à la pompe.
Je n'y suis pour rien, je ne peux rien faire. Il n'y a qu'une seule solution face aux vulnérabilités du monde, sortir de notre dépendance au pétrole et sortir de notre vulnérabilité à la mondialisation malheureuse que nous avons construite. Je ne comprends pas pourquoi les politiques nous font croire que nous sommes des enfants et que ce sont nos parents et qu'ils vont nous protéger. C'est pas vrai, on est un peuple mature, on est un peuple démocrate. Et on vote pour que les politiques fassent ce qu'ils peuvent avec les outils dont ils disposent. Et je pense qu'on est tous assez grands pour comprendre que si Donald Trump a décidé de faire une guerre à l'Iran et que nous sommes dépendants du pétrole qui passe par Hormuz, on va pas pouvoir, parce que les ministres s'assoient autour de la table et discutent et nous balancent des éléments de langage, et résoudre des problèmes qui nous dépassent. Bon. En revanche, ce qu'on va pouvoir faire, c'est sortir de notre dépendance au pétrole en investissant massivement sur l'électrique.
Mais d'ailleurs, il y a eu plus 46% de ventes sur les voitures électriques.
Voilà,
d'ailleurs.
Et j'ai une très bonne nouvelle. Hier, j'étais au cinéma et les seules pubs pour voitures qu'il y avait pendant la pub, avant le film, c'était que pour l'électrique. 100% des pubs étaient pour de l'électrique.
Des voitures électriques fabriquées où ?
Je me suis dit que j'allais vous rapporter cette info.
Fabriquées où ?
En Chine.
Non mais j'ai pas dit que c'était parfait. J'ai dit que progressivement on va sortir.
On est en train d'assassiner avec préméditation toute la filière automobile française, toutes les PME sous-traitantes, etc. Ça va être un raz-de-marée, une désertification industrielle supplémentaire catastrophique. Donc la voiture électrique, moi je suis contre.
Pourquoi les politiques nous mentent? Pourquoi vous avez vu ce qu'il fait? Lecornu, il est assez agile. Moi je l'aime bien. Je trouve que c'est un bon homme politique.
Ouais, bah, il fait rien.
Non mais justement,
il est populaire parce qu'il fait rien.
Il est assez agile parce que ça fait 3 semaines qu'il renvoie la balle. T'as raison, il prend Total en bouc émissaire. Il dit je réunis les ministres. Hop, il nous balade. Mais assez subtilement.
Il y a la vie des gens quand même. Moi je veux bien, mais ça c'est très parisien. Va voir, la voiture, c'est un outil indispensable pour 7 Français sur 10. Je rappellerai que dans ce pays, il y a 60% des Français qui ne vivent pas dans les grandes villes. Tout ne se résume pas à Paris, Lyon et Marseille, Bordeaux ou Nantes. Et je pense que cette façon de faire de M. Lecornu est très dangereuse. Ça va se payer un jour ou l'autre. Là, effectivement, il se dit c'est bien, il n'y a pas le gilet jaune. C'est bien, personne ne manifeste.
Oui, mais
ça va
se payer autrement. Les gens sont à mort,
ça va se payer autrement. Oui. Les gens n'en peuvent plus. Ouais. Ils ont bien compris quand même que l'État surtaxait le carburant. Alors c'est vrai, jusqu'à présent, on l'acceptait. Parce que finalement, on expliquait que c'était bien, se servait à financer d'autres choses, etc. Là, on se rend compte quand même qu'on est plus taxé chez nous que partout ailleurs en Europe, que les autres pays autour de nous ont fait plus d'efforts que M. Lecornu. Et pourtant, l'Italie est un pays endetté aussi. Hein. L'Italie a même plus de dettes que nous. Bon, donc c'est possible. Après, c'est des choix politiques. M. Lecornu tient à tout prix à un budget qu'il a fait avec les socialistes. Il ne veut pas en démordre. Mais il prend un risque, hein. Il prend un risque, alors ça se retournera pas peut-être contre lui parce qu'il va quitter le pouvoir dans un an, mais ça sera c'est la suite qui peut être.
Non, il va être rattrapé avant. Il y a le prix du fioul
est
prohibitif, le prix pour les transporteurs, les agriculteurs, les pêcheurs est prohibitif et pour le grand public avec ce qui se trame à Hormuz, indifféremment de cette magnifique chanson là très humoristique qu'on a entendue il y a quelques secondes, c'est une bombe à retardement sur la barre des 3 euros le litre. Et là, vous allez voir, ça va pas être la même histoire.
Parce que il faut rappeler que nous, en France, on n'a pas de pétrole qui vient du détroit d'Ormuz. C'est simplement la tension sur le marché. Oui, c'est le marché qui fixe le cours du pétrole et le prix du baril. Et heureusement qu'on a d'ailleurs un champion quand même comme Total. Parce que si Total était encore fragilisé, si on n'avait pas, ce serait encore plus terrible pour nous, quoi. Charles Consigny, est-ce que Total doit en faire davantage encore?
Non, je suis pas sûr, honnêtement. Je pense que ce qu'ils font est déjà pas trop mal. Ils pourraient parfaitement se planquer, ne rien faire et inviter le gouvernement à financer ça avec de l'argent public. Et ils font déjà un peu. Je pense que, en plus, compte tenu des incertitudes qui sont devant nous et du risque que la crise s'aggrave, j'ai vu que dès le début de la crise, on avait déjà puisé dans les réserves stratégiques. C'était trop tôt, je veux dire, ça venait de commencer, c'était dingue, il faut quand même...
90 jours de réserve.
Il faut être un petit peu raisonnable.
Non, Alain répète toujours qu'on a 90 jours, mais il n'y a pas eu d'update, il y a une opacité, on a tapé dans les réserves, Charles vient de le dire.
Oui, mais
on a probablement plus que 65 jours, et si la France brûle et qu'on ne peut pas envoyer les CRS parce qu'on n'a pas de carburant, voilà un scénario par exemple.
Effectivement.
Non mais c'est vrai.
Je pense
que Monsieur Le Cornu, il joue un jeu très dangereux, à jouer la montre, à penser que ça va passer en
Moi, je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr parce que regardez les dernières années, les Français ont quand même une capacité à la léthargie qui est quand même énorme. Oui, hein. Regarde, en 2022, Emmanuel Macron s'est fait réélire
au premier tour. Hein.
Oui, bah, et alors, qu'est-ce que ça changera?
Bah, je sais pas si. Alors, mais ça, c'est autre chose.
Qu'est-ce que ça changera?
Non, mais ça, c'est autre chose.
Ça changera rien. Changera.
Mais enfin, le fait qu'il y a quand même dans ce pays.
Bardella
des gens
est un faux opposant.
15% Mélenchon.
Bardella.
Ça veut dire qu'il y en a quand même déjà 50% qui veulent voter.
Oui,
pour
et le bloc central se frotte les mains. Mais non, mais en fait, la stratégie du bloc central, en réalité, elle est indéfiniment la même et pour l'instant elle fonctionne indéfiniment. Il y a des fausses oppositions. Bardella, il a 12 ans et demi, personne ne croit sérieusement sauf poussée de fièvre, etc. Mais enfin, ce serait une espèce de bug que le mec soit élu. Il faut dire les choses comme elles sont. Mélenchon, il s'est tellement radicalisé à gauche qu'en fait, c'est devenu une espèce.
Donc, on n'a pas besoin d'aller voter dans un.
C'est un épouvantail. Mais je te donne la stratégie du bloc central. Ah oui, je te donne leur stratégie. C'est comme ça qu'ils le conçoivent.
Ça, c'est dangereux, ça aussi.
Ils parient sur la léthargie des Français. Ça a marché. En 2022, Macron s'est fait réélire finger in the nose avec cette stratégie. Bah, on verra.
Et là, il y a
un côté amorphe. Et de toute façon, quand les gens s'énervent trop, comme avec les gilets jaunes, on leur envoie effectivement des coups de flashball dans la gueule, on les éborgne et on les ampute. Donc bon, moi, je suis pas sûr. Je dis pas que je soutiens cette stratégie. Constate que elle fait plutôt ses preuves ces dernières années. Elle correspond malheureusement à un certain
établissement actuel. Macron n'a jamais eu une majorité, ni en 2022, ni en 2024, et qu'aujourd'hui la France est ingouvernable.
Mais il garde le pouvoir.
Pardon, mais c'est pas une stratégie pour la France très gagnante. On
ne
peut pas dire que la France est dans une situation en ce moment très...
Mais je ne te dis certainement pas que c'est une stratégie gagnante pour la France.
Le corps, il peut rien faire,
je te dis que c'est une stratégie gagnante pour ces gens-là. Qui
pour rester au pouvoir.
Qui ont un objectif, c'est de rester le cul vissé dans les ministères, à bouffer des gambas et des langoustines, à boire des bons vins de Bourgogne et à se déplacer à l'arrière de carrosse. Et il faut dire les choses, on va dire il est populiste, nanana, mais quand on les voit de près, c'est ça qu'ils veulent. Et c'est garder ce truc-là le plus longtemps possible. Jadis, on disait la soupe est bonne. C'est ça qu'ils veulent. Donc, oui, ils vont gagner du temps sur le carburant, crois-moi. Et crois-moi qu'après, ils vont dire, oulala, attention, Bardella, c'est les nazis, puis il est trop jeune. Mélenchon, c'est Staline, il n'y a que nous. Françaises, Français, il n'y a que nous.
Ils ont déjà commencé.
Et les bourgeois, il n'y a que...
On a Valérie qui est au 32-16. Ouais, bonjour Valérie. Bienvenue Valérie. Est-ce que vous attendez de Total et qu'ils en fassent davantage ou pas? Alors dites-moi.
Non, pour moi, Total, j'estime que c'est déjà bien ce qu'il faut parce qu'ils ont plafonné et moi, je fais 80 km par jour. Ça me permet de faire le plein moins cher que dans notre station. Et j'estime qu'en fait, c'est une société privée. Ils ne font pas les gros bénéfices en France. Donc pour moi, j'estime que c'est déjà bien. Ce sera à l'État de faire un effort en supprimant temporairement, on va dire, par exemple, la taxe pour les éoliennes avec un moratoire. Et tout simplement, ça permettrait déjà de passer le gasoil à moins de 2 euros. Donc ce qui serait déjà bénéfique pour beaucoup de monde. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que, je ne sais pas s'ils se rendent compte, mais je pense que les gens, du fait de ces envolées du carburant et de tout ce qui va générer derrière, en fait, Il y a malheureusement des fermetures de sociétés, de commerces, parce que les gens n'auront pas forcément les moyens de partir en vacances ou de dépenser autant qu'ils le faisaient. Et de ce fait, peut-être la glace, ils n'iront pas. Donc le glacier, son chiffre d'affaires, il va peut-être s'écrouler et il fermera. Enfin, il y a plein de choses comme ça, ils devraient y penser. Moi, enfin, pour moi, voilà, ils devraient changer de politique.
Mais oui, mais vous avez mille fois raison, Valérie, mais il faut se rappeler, c'est pas ça, ça fait plaisir à personne qu'on a jeté l'argent par les fenêtres avec le Covid. Là, on cherche 10 milliards ou 15 milliards à tout casser pour rétablir la situation. On a dépensé 450 milliards pour le Covid et à peu près, parce que les chiffres sont truqués, 70 milliards pour l'Ukraine.
Oui, je suis d'accord, mais peut-être cet argent-là, il pourrait le trouver ailleurs, tout simplement. Il y a des dépenses qui sont énormes dans différentes, malheureusement.
Oui, mais non, mais là où vous avez raison, c'est que la situation est tellement grave.
Regardez les chiffres des dépenses publiques. Je les ai regardés ce week-end. Je passe des week-ends riants. j'ai regardé la répartition des dépenses publiques. Le régalien, c'est-à-dire la police, la justice. L'armée, c'est un peu plus de 6% des dépenses publiques. La protection sociale, c'est 60% des dépenses publiques, c'est de mémoire quasiment 900 milliards.
Alors, dont les retraites
Oui, alors retraite, sécurité sociale et autres allocations, etc. Donc, on va pas raboter police, justice, armée, hein, surtout en ce moment. Donc, en fait, c'est la protection sociale, en réalité, le problème. Et moi, je veux bien, mais les Français qui veulent l'essence moins chère, il faut qu'ils acceptent aussi un âge de départ en retraite décalé et moins de choses prises en charge par la sécurité sociale.
Je vous remercie d'avoir été avec
là. Et là, on pourra faire des coups de
pied. Malheureusement, c'est vrai.
Et on va continuer la discussion.
Tout à fait d'accord. Pardon, avec Charles, je vous en prie.
Oui, oui.
Moi qui ai 57 ans, je travaille depuis très tôt, je commençais très tôt à commencer le travail. Donc je suis tout à fait d'accord pour partir plus tard à la retraite sur certains métiers. Les métiers difficiles, j'estime que on pourrait les favoriser à partir plus tôt parce que un maçon ne pourra pas forcément partir à 64 ans.
Surtout qu'il a souvent commencé plus tôt aussi.
Voilà. Et également, alors ça va peut-être vous étonner, mais bon, moi je suis plus pour repasser aux 39 heures. Voilà. Pour relancer l'économie, de travailler plus.
Alors, ça fera plaisir à personne, mais moi qui ai géré des sociétés pendant 40 ans, avec succès en l'occurrence, si on ne passe pas, on repart pas aux 39 heures sans augmentation de salaire,
on
ne sortira jamais l'économie française du marasme.
Ah non,
je suis désolé.
Emmanuel, moi je suis pour les 39 heures, mais il faut les payer 39. Simplement, il faut baisser les charges.
Sauf qu'on est passé,
tu peux faire les 4 heures.
On est passé de 39 à 35 sans baisse de salaire.
Oui, mais.
Renvoyer l'ascenseur avant la faillite.
Oui, moi je passerai à 39, mais sans charge sur les 4 heures de plus,
39,
par exemple.
Payer 45.
Peut-être qu'on n'aura pas le choix.
Valérie, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, Valérie. Dans un instant, on va continuer la discussion avec vous au 32-16.
À demain.
L'État attend de Total un plafonnement généreux. Total a décidé de plafonner jusqu'à la fin de la crise, mais pas suffisamment du côté du gouvernement. C'est au 32-16 que vous continuez de réagir avec nous. À tout de suite avec les Grandes Gueules. Il est 10h20, vous êtes sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC et RMC Story, les Grandes Gueules avec aujourd'hui Emmanuel Devilliers, avec Charles Consigny, avec Flora Guebali, surtout avec vous comme tous les jours au 32-16 puisque c'est plein d'essence, c'est nous qui les faisons chaque semaine à la pompe. Et on voit les prix qui restent très hauts. Du côté de Total, on a décidé de caper, de plafonner jusqu'à la fin de la crise. C'est ce qu'on dit. Après, il faudra déterminer ce que c'est que la fin de la crise. A priori, la crise sera surtout liée au détroit d'Ormuz. Wilfried, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Est-ce que le gouvernement a raison? Est-ce que Total doit en faire plus, oui ou non?
Ah non, mais le gouvernement a complètement tort. Total, il faut arrêter de taper sur les entreprises, les fleurons de nos entreprises françaises, que ce soit Total, LVMH. On se rend pas compte que ces entreprises-là, elles sont hyper importantes pour nous. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à survivre. Parce que la politique, là, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. N'importe quoi. Non, la dette, c'est pas notre faute. Hein. Mais par contre, les taxes, là, travail, on y va, ils taxent. C'est à eux d'enlever les taxes sur l'essence à l'État.
Oui, mais dans ce cas-là, comment vous compensez la taxe que vous enlevez sur l'essence?
Ah, mais ça, je m'en fous, ça, c'est leur problème. Ah, oui. C'est eux qui ont géré le truc. Attendez, ça fait 10 ans qu'ils gèrent n'importe, plus de 10 ans qu'ils gèrent n'importe comment l'État français. Il ferait mieux de prendre l'exemple sur des Bernard Arnault et tout ça. Là, qui gèrent leur entreprise.
Cochrane veut les taxer.
Ils ne savent rien faire.
Éric Coquerel, président de la commission des finances, pense que Bernard Arnault a fait des surprofits en Iran.
Oui, c'est sûr. Et par contre, on n'a pas.
Apparemment, la boutique Vuitton de Téhéran cartonne depuis les bombardements américains, donc il faut les surtaxer.
Allez-y. Par contre, on ne crache pas dans l'argent de ces entreprises quand Notre-Dame a brûlé, qu'ils ont été les mécénats.
Oui, bien sûr.
Et voilà. C'est toujours pareil. Ouais. Donc l'État, ils s'en foutent, eux, c'est eux qui s'en foutent.
Mais vous savez, quand il y a une crise, il faut toujours des boucs émissaires.
Mais oui, mais l'État, il faut mieux de se regarder.
Sur cette crise, c'est total le bouc émissaire, d'autres vont dire...
Oui, mais c'est là où c'est problématique. Parce que par idéologie, tu vois, la France insoumise qui dit il faut caper le bloquer les prix ou bloquer à 1,70€, Wilfried. C'est-à-dire que derrière, quand vous leur... redonner l'argument rétoqué, répondez en leur disant que plus personne nous vendra de pétrole si on sait qu'en France le prix est 1,70€, on te dit que tu mens et que t'as pris le camp de Total. Donc c'est là où il y a un manque aussi, vous voyez, de franchise de la part des responsables politiques, puis, parce qu'en fait ils sont face à leur échec. Quoi. Allez-y.
Posez-vous la question, comment ça se fait que les gros yachts, parce que moi j'ai travaillé sur les yachts, j'ai travaillé sur des yachts de luxe, comment ça se fait que les yachts payent le diesel à 70 centimes le litre en France?
Ça, on ne sait pas. Dites-nous.
Ah, parce que tout est détaxé. Tous les yachts sous pavillon étranger,
ils les vendent
à 80 maintenant. Centimes.
Ouais. Enfin, tous ceux qui sont pavillons français sont surtaxés. D'ailleurs,
il y en a un qui est pavillon français.
Il y en a plus. Il y en a plus d'ailleurs parce que.
Moi, j'ai navigué sur le pavillon maltais. Je payais mon diesel à 70 centimes.
Wilfried, je vous remercie d'avoir été avec nous. On a Hervé, chef d'entreprise du côté de la Gironde, qui veut réagir lui aussi. Bonjour Hervé.
Bonjour messieurs, dames.
Est-ce qu'on doit en demander encore davantage à Total?
En fait, j'ai deux questions. Sur le premier trimestre, c'est les résultats qui ont été déclarés, c'est uniquement déclaré en France ou est-ce que c'est le groupe Total en général?
Non, c'est le groupe Total en général.
Non, parce qu'en France, Total
France,
fait...
combien?
Total, hein. Moi j'ai les chiffres de 2025, zéro bénéfice en France. D'ailleurs, ils n'ont pas payé l'impôt sur les sociétés, voilà, Total. En France, hein, parce que les fameux 13 milliards qu'on cite souvent, c'est de l'argent que Total gagne en Afrique, au Moyen-Orient, etc. Pas en France.
Voilà, donc déjà
sur le bénéfice,
on récupère zéro. Donc déjà. Ben oui. Et ensuite, j'aurais été curieux de savoir quel a été le montant auquel Total a contribué en plafonnant les prix. C'est-à-dire, s'il ne les avait pas plafonnés, quel est le différentiel et en fait, quelle est leur participation véritable en argent? C'est-à-dire, est-ce que c'est quoi, 1 milliard? Est-ce que c'est 500 millions? Est-ce que c'est, voilà, ce serait intéressant de savoir s'ils n'avaient pas plafonné pendant la période, combien
après, ça représente. Attention, ils gagnent des clients parce que comme ils sont les seuls à pouvoir plafonner, oui, parce qu'ils maîtrisent toute la chaîne de production
et
de
distribution. C'est eux qui vendent aussi à Auchan, à Total et aux.
Ils attirent dans leur station.
Il y a des ruptures de stock parfois.
Ben non, mais ils attirent beaucoup plus de monde. Ils font des soldes, en fait, si vous voulez. Ils attirent beaucoup plus de monde dans leur station-service. Moi, je pense qu'à la fin, comme Total est une boîte excellemment gérée par Patrick Pouyanné, qui devrait présenter sa candidature à la présidentielle. On cherche quelqu'un d'un peu capé. Moi, je dis
Pouyanné
2027.
Des autres.
Je pense qu'ils gagnent de l'argent, même en plafonnant leur prix.
Ah bah oui.
Mais il faut savoir que les grandes surfaces, certaines grandes surfaces recommencent à faire de l'essence à prix coûtant comme ils le font régulièrement pour attirer les clients le samedi. Hein. Vous aviez de l'essence à Carrefour le week-end dernier à 2,05 et 2,10 comme ils le font d'habitude pendant l'année pour attirer les clients. Donc c'est aussi, ça montre quand même qu'il y a un petit peu de marge qui est conservé et chacun des revendeurs d'essence aujourd'hui gagne plus d'argent que d'habitude malgré tout. Hein.
Bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que vous raisonnez en chef d'entreprise. Or, nos responsables politiques, là, en ce moment, c'est la saison de la déclaration de candidature. Je regardais, là, ceux qui se sont déclarés candidats. Aucun n'a travaillé dans une entreprise. À gauche ou à droite, hein. Ni le jeune Jordan Bardella, ni Gabriel Attal, ni Jean-Luc Mélenchon, qui a été élu pour la première fois en 1983, donc, qui aura fait ça toute sa vie, ni à droite, Édouard Philippe, etc. Donc, en fait,
on a Edouard Philippe a brièvement travaillé chez Atos.
Oui, enfin, il a
une boîte
ça.
En pleine
Alors,
forme.
Oui, c'est en général.
Après
c'est
les
même...
interventions de Breton voilà. et Philippe,
c'est très peu. Ils ont fait surtout de la politique, voire que de la politique.
Ouais.
Et ça, c'est intéressant de vous entendre, Hervé, parce que
ils
le raisonnement d'achat d'entreprise, on ne l'a jamais dans la bouche d'un politique. On a des raisonnements d'énarques, d'apparatchiks.
Vous voyez, faites la fin de l'exercice, savoir si t'es capable de lire un compte de résultat ou de lire un bilan. Vous voyez, tout
mais
simplement.
Non. Oui, mais
dans
non,
les
mais...
exercices que vous allez faire à venir, vous allez tous les avoir. Est-ce que vous savez ce que c'est, telle ou telle ligne, la trésorerie, ce que c'est, etc., etc. Quand vous écoutez, le responsable de la Banque de France ce matin chez Apolline, ou quand vous écoutez la semaine dernière, le PDG de Corsair, le français lambda, il entend, il écoute et il comprend.
Oui.
On a l'impression qu'il n'y a que les politiques qui comprennent pas. Je veux dire, quand le gars de Corsair, il dit que ce soit une grande entreprise, une petite entreprise, vous pouvez très bien avoir des états financiers corrects, mais vous courez derrière la trésorerie toute l'année. Mais parce que la banque, elle nous tient. Nous, la France, en tant que pays, on ne court pas derrière la trésorerie. Personne ne nous tient. Donc on dépense. Et à un moment donné, si les créanciers, si les gens qui nous prêtent de l'argent, à un moment donné, mais ça se passera pas, diront stop, là, il va falloir commencer à passer à rembourser, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est ce qu'on vit, nous, au quotidien, tous les jours. Et on a, aujourd'hui, cette façon de fonctionner que n'a pas l'État et que n'ont pas les politiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut, demain, élire qui? Un chef d'entreprise. C'est simple, quelqu'un qui va savoir compter et qui va dire, il va falloir remettre les gens dans les clous, il va falloir faire des choix, c'est ce qu'on fait dans les entreprises, et pas simplement demander une opportunité. Total, ben Total, c'est une boîte, quoi. À la fin, ils ont des gens, ils font suffisamment de bénéfices, ils participent, et clairement, ils ont des comptes à rendre, et puis ils ont des gens à gérer, quoi.
Ils ont 700 000 actionnaires français.
Mais le petit problème, Hervé, me semble-t-il, c'est que si on fait les vraies propositions pour redresser la France, c'est impossible d'être élu.
Mais Hervé, il faut rappeler aussi que 10% du capital de Total est détenu par ses propres salariés qui, l'année dernière, avaient touché 12 000 ou 13 000 euros de primes grâce à leurs actions aussi. On a Olivier qui va conclure notre discussion, il est du côté de la Gironde. Bonjour Olivier. Est-ce que vous pensez que Total doit faire davantage encore, dites-moi?
Non, absolument pas. Je suis grand commercial, donc je roule beaucoup, et notamment dans pas mal de pays du sud de l'Europe. Et quand on voit les prix en Espagne du carburant, j'ai en Asturie, par exemple, des prix à 71 centimes moins chers qu'en France. Quand vous allez au Portugal, on est à quasiment 50, 55 centimes. En Italie, 40 centimes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Quand l'État dit que les taxes liées au carburant... on peut pas les baisser. Si avant le détroit d'Hormuz, on fixe un barème de rentabilité du pétrole en France et qu'on considère qu'il n'y a pas de perte d'argent à partir du moment où on maintient ce cap-là, ça veut dire que l'État français ne perd pas d'argent, loin de là. Et donc ça permettrait aux Français de pouvoir circuler, partir en vacances, avoir une activité professionnelle. Imaginez, moi, mon véhicule, j'ai plus de 1200 km, enfin, j'ai 1000 km à peu près d'autonomie. Je squeeze la France, je la squeeze à chaque fois. C'est-à-dire, je fais le plein avant et je fais le plein dans un autre pays. Les routiers font ça en France. Faut imaginer.
Vous allez où faire le plein, Olivier?
En France?
Ouais. Non, mais vous dites, je fais le plein ailleurs, vous faites où?
Je fais le plein en Espagne, par exemple, quand je suis en Espagne, et je pars en Italie, je fais le plein en Italie.
C'est vraiment moins cher, là, en ce moment, en Italie, en Espagne?
Mais bien évidemment, c'est moins cher. Bien évidemment. Regardez.
Donc, c'est possible. Pour le même produit, parce que c'est le même produit, hein.
C'est exactement le même produit.
Il y a un peu d'huile d'olive. L'Espagne ne produit pas de pétrole, ni d'Italie. Donc on l'achète au même endroit.
Oui, exactement. Les routiers squeezent la France. Les routiers font le plein dans les pays étrangers et ils évitent au maximum de faire le plein en France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut bien comprendre que la rentrée d'argent, la taxation que récupère l'État, c'est une foutaise. L'État s'en met plein les fouilles. Enfin, c'est une évidence.
Il faudrait savoir précisément ce que représentent les gens comme vous qui font le plein ailleurs qu'en France. Voilà, effectivement, quel est le manque à gagner?
Il y a beaucoup de Français, Olivier, quand vous faites le plein, ouais.
Ben, bien évidemment, vous traversez la frontière espagnole.
Mm-hmm.
Quand vous allez bien loin, vous passez toute la frontière sur toutes les Pyrénées, vous passez la frontière espagnole, vous avez déjà un carburant qui est en moyenne 25 à 30 centimes moins cher.
Que vous avez comme voiture?
Moi, j'ai une BID.
Une chinoise. Ouais.
Ah, mais vous êtes quand même un peu traître à la patrie quand même, alors.
Hybride.
Mais pourquoi vous n'avez pas une voiture française, Olivier?
Parce que c'est beaucoup moins cher.
On produit des voitures d'excellente qualité.
Vous savez, j'avais une voiture qu'on a considérée comme étant absolument interdite en France. J'avais une Porsche, vous voyez. Et quand j'ai voulu renouveler Porsche, j'avais une taxation à 80 000 euros.
Quel modèle?
De taxe. Une Porsche Macan S.
Quand aujourd'hui, il y a un bonus de dingue. Enfin, un malus de dingue.
80 000 euros.
Vous achetez une voiture 100 000 euros.
Voilà comment on soutient l'industrie européenne.
Par contre, vous voyez, par exemple, ça.
Après, on nous dit l'Europe.
Oui. Ce cas-là de la voiture, excusez-moi de vous couper. Ce cas-là de la voiture, c'est quand même se dire qu'on est le seul pays en Europe à faire ça.
Oui, on est le seul. Très bonne voiture, la Porsche Macan.
Ça veut dire que les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont acheter leur voiture à l'étranger quand ils peuvent.
Ouais. D'ailleurs,
on marche sur la tête. Nos politiques.
Faut supprimer toutes ces conneries là.
Ils ont aucune conscience.
Parce qu'on prend des mesures à l'échelle française hexagonale.
Ils sont complètement. Ils sont hors sol.
Mais vous voulez la meilleure là en ce moment, Olivier. Si vous vous intéressez un peu à l'actualité automobile, Xiaomi, le géant chinois, vous savez qui fabrique déjà les portables, les télés. Ouais. Ils sont en train d'ouvrir un technocentre. Ils ont ouvert un technocentre à Munich. Et vous savez les ingénieurs où ils sont allés les chercher ?
Chez Mercedes, chez
Renault. Ils sont allés les chercher chez Porsche, chez BMW. Et ils les payent quasiment le double de ce qu'ils gagnaient. Voilà. Donc, je ne vais pas reprendre une expression que j'avais déjà employée ici, mais j'ai l'impression que c'est baisé. Vous voyez, je vous l'ai dit pour la dernière fois. On est foutus.
Mais moi, je n'aime pas les voitures chinoises. Je suis désolé.
Cher Olivier, je vous remercie d'avoir été dans les GG. Prix des carburants, doit-il en faire plus? Qu'est-ce que vous en dites? Dans l'ensemble, vous avez dit non. Et ben voilà, vous continuez de dire non. Vous estimez que Total en fait suffisamment à 68, quasiment 69%. Allez, dans un instant, la politique. Jean-Luc Mélenchon, candidat en 2027. C'est la quatrième fois. Est-ce que ce sera la bonne? Vous venez nous dire ça. Il est 11h-25.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules qui vous envoient en vacances, les amis, attention, toute la semaine sont des vacances, bel en bras, à la mer, à la montagne, à la campagne. C'est comme Martine, vous voyez, Martine, elle avait gagné un voyage bel en bras. Elle nous a envoyé une petite carte postale en disant merci pour un voyage, ce voyage que j'ai gagné, c'est génial, je me régale, signé Martine. Voilà, Martine, elle était allée au club La Palmyre. Vous choisissez le club que vous voulez en France, vous choisissez votre région, c'est bel en bras qui prend tout en main, c'est bel en bras, c'est le tout compris premium, il y a juste vacances envoyées au 732-16. Vacances au 732-16. Vous jouez, vous gagnez. En attendant, on va parler un peu politique.
Oui, je suis candidat. Si vous voulez, c'est le contexte et l'urgence qui ont fixé la décision insoumise. Nous sommes à moins d'un an du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et quoi ? Les divisions internes dans les partis font qu'il y a une multitude de candidatures et c'est la confusion. C'est irresponsable. Nous, c'est carré. Il y a une équipe, un programme, un seul candidat.
Mélenchon, candidat pour 2027. Une évidence qu'on répète, qu'on élève. Dans les couloirs, dans les tracts, dans les rêves. C'est déjà écrit avant.
Mais c'est quoi toutes ces chansons?
C'est Louis qui va trouver ses chansons sur Internet après. C'est donc après tu as raison pour en créer avec l'IA aussi s'amuser un petit peu. Donc Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez entendu, il dit c'est carré, nous c'est carré, on a un candidat, on a le programme, donc c'est parti pour 2027. Quatrième fois, est-ce que ce sera la bonne? 32-16 pour le dire aux grandes gueules.
C'est tellement carré que l'intergroupe insoumis a voté à 96,6%. Pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, il n'y a pas eu discussion chez eux. Il y en a peut-être trois ailleurs, mais alors chez eux, il n'y en a pas du tout. Jean-Luc Mélenchon, alors c'est un secret de Polichinelle, on savait qu'il voulait être candidat, même si en 2022, souvenez-vous, il avait dit c'est ma dernière candidature, mais il a un argument, il dit voilà, la situation est terrible partout, et il faut de l'expérience. Et à 74 ans, j'incarne l'expérience. 74 ans, c'est l'âge qu'avait Jacques Chirac lorsqu'il a quitté l'Élysée après son second mandat. Il faut aussi souligner que hier, on a eu la version, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, face à Anne-Claire Coudray sur TF1, on avait la version gentille de Jean-Luc Mélenchon. Il y a deux versions. Il peut être très désagréable, il peut être très gentil. Il était souriant, il a dit bonjour madame, il n'a pas tenu de propos outranciers, il n'a pas lancé de polémique, même sur son concept, il portait une cravate rouge. Sur son concept Nouvelle France, il a mis de l'eau dans son vin, on ne comprend plus trop d'ailleurs ce que ça veut dire. Donc, mais il n'a pas lancé de nouvelle polémique, donc c'est un nouveau Mélenchon. Est-ce que ça veut dire que tout est oublié? C'est-à-dire que le Mélenchon qui dérape, etc., on l'oublie, et que c'est le Mélenchon candidat maintenant qui va essayer de séduire l'électorat de gauche?
Bah, moi, je pense que sa stratégie en politique, il faut à la fois avoir une espèce de cœur de réacteur qui vous fait marcher la machine. Et ça demande de la radicalité. C'est ça qui fait que vous agrégez à vous l'attention. Et après, une fois que ce truc-là est enclenché, vous pouvez adoucir un peu les choses pour ratisser un peu plus large. En l'occurrence, Mélenchon a une force, c'est déjà l'absence d'autres candidats crédibles à gauche. Parce que, je suis désolé, c'est pas Glucksmann ni Hollande qui lui font vraiment de l'ombre. Glucksmann, parce qu'il a sans doute quand même pas les épaules assez larges pour ce job. Et Hollande, parce qu'on a déjà donné et qu'au fond, on n'a pas envie d'y retourner. Non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Donc, de toute façon, pour moi, cette présidentielle, elle se joue en gros entre Philippe et Bardella. Peut-être Mélenchon qui viendrait perturber. Non, pas élu au second tour, mais je pense qu'il peut être au second tour. Je pense qu'il n'est élu dans aucune configuration, mais il peut être au second tour.
Il n'a aucune chance d'être président.
Non, Mélenchon, il peut faire élire Bardella. C'est à peu près le seul truc qu'il peut faire, je pense, dans cette présidentielle. Je pense qu'il a aucune chance d'être élu président de la République. Je pense que s'il est face à Bardella, Bardella gagne autour de 65%. Il faut dire les choses comme elles sont.
Des sondages même.
Comme il y a beaucoup de dégagisme, il peut y avoir aussi, je ne sais quel, Emmanuel de Villiers qui viendrait turbuler cette élection. Mais en tout cas, je pense que sur le panel qui est là, il y a encore la place pour quelqu'un qui viendrait tous les mettre dehors. Mais sinon, tous les autres candidats, je n'y crois pas trop. Et notamment à gauche, je n'y crois pas du tout. Donc, c'est le seul, à mon sens, à gauche, qui va étouffer les autres et qui, ce faisant, peut se hisser jusqu'au second tour. Mais tout ce qu'il fera, c'est faire élire Bardella.
Alors, moi, je trouve que dans l'extrait qu'on a repassé où il déclare sa candidature, on aurait dit un type dans un bistrot en fin de soirée. Alors, il est visionnaire, il ne voit que lui. Donc à partir de là, c'est assez clair. Alors, il s'est préparé en se montrant sympathique. Il avait enlevé sa boutonnière ridicule, qui est un triangle soi-disant antifasciste et de souvenir du peuple ouvrier, pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé. C'est assez présomptueux. Et il a rétro-pédalé aussi sur la Nouvelle France en mode un peu ventilateur, puisque maintenant, c'est plus le grand remplacement. En ont dit, c'est la succession des petits-enfants aux grands-parents. Il a fait un salmigondi autour de tout cela qui était particulièrement vaseux. Et quand Anne-Claire Coudray lui a fait remarquer que c'est sa quatrième candidature, il a fait référence à Jacques Chirac, qu'il aurait pu faire référence aussi à François Mitterrand, mais en omettant de dire que la quatrième candidature, tant de François Mitterrand que de Jacques Chirac, était non seulement celle d'une élection, mais d'une réélection. Donc en vérité, se présenter quatre fois, ça n'a pas beaucoup de sens.
Il progresse à chaque fois quand même.
À chaque fois, il
a fait mieux.
Il a des soutiens qui sont quand même problématiques, au-delà de leurs scores électoraux. Je cite par exemple Bali Bayayoko, qui hier soir a confirmé à la télévision qu'il avait décroché le portrait officiel du président de la République. Alors avant, on avait bébé Brigitte Bardot. Changement des temps, maintenant, on a Bali Bayayoko.
Bali Bayayoko.
Sur toutes les choses, toutes les critiques qu'on peut faire à LFI et Mélenchon, j'aurais bien aimé qu'Emmanuel en trouve. Il y avait du choix sur les critiques qu'on peut faire à Mélenchon, et Emmanuel aime faire des critiques faciles. La force de Mélenchon, c'est que effectivement, comme il dit, c'est carré. C'est-à-dire qu'il y a, quitte à ce que ce soit complètement autocratique, mais ça, à la limite, les électeurs, c'est peut-être pas trop leur affaire. C'est qu'il y a un candidat, il y a une jeune garde autour, enfin une garde d'ailleurs plus tellement jeune autour de lui. Il a réussi à faire émerger, qu'on le veuille ou non, il a des talents politiques.
Oui, il a fait une nouvelle génération.
Fort, il a fait émerger une génération. J'avais calculé, il y a 15. Élus LFI qui ont une audience sur les réseaux sociaux monstrueuse, quasiment comparable à celle d'une chaîne d'info.
Il n'a pas su faire ni le Parti Socialiste, ni les Républicains.
Ni Europe Écologie Les Verts.
Ni Europe Écologie Les Verts. Cette nouvelle génération, voilà. On présente. Après, on.
Il n'y a que le RN et LFI qui ont bossé le renouvellement générationnel.
En fait, le sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a trois partis autocratiques dans la place, RN, En Marche, Renaissance et LFI, et que ces partis-là, ils vivent bien parce qu'ils font émerger des gens, etc. Et il y a des partis démocratiques qui, eux, ont beaucoup de mal à faire émerger des gens, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, au Parti Socialiste, où c'est pas très clair ni le le processus de désignation, ni qui est en lice et comment ça va se passer. Moi, je mise sur les électeurs et les citoyens. Est-ce qu'ils vont avoir la mémoire courte ou est-ce qu'ils vont se souvenir de ce que Mélenchon a conflictualisé, bordélisé et comment c'est sa stratégie? Il faut quand même, excusez-moi, être un peu débile pour ne pas voir cette stratégie, parce qu'elle est quand même
débile. Mais la mémoire est courte. Un électeur, il a
sinon
de mémoire.
François
Bidon n'a jamais été élu.
Jean-Luc Mélenchon, en 2012, il a dit pour gagner, il faut tout conflictualiser. Et depuis, il n'arrête pas de s'en tenir à sa stratégie. C'est clair, il l'a dit en meeting, il l'a dit dans des médias. Maintenant, si les citoyens ont la mémoire courte, on va plus rien faire pour pouvoir rien faire pour eux.
On a Farouk qui est électeur Jean-Luc Mélenchon, qui nous appelle de Montreuil. Bonjour Farouk. Heureux.
Bonjour Alain, bonjour Olivier.
Bienvenue.
Merci à vous.
Comme dit Mélenchon, au moins c'est carré, on sait où on va avec Mélenchon, c'est pour ça que vous votez pour lui?
Bah écoutez, moi j'étais orphelin plutôt à gauche, parce que quand on voit les 5 ans de François Hollande plus les 10 ans d'Emmanuel Macron, enfin je rappelle qu'il vient quand même du Parti Socialiste, je crois qu'on l'oublie souvent. Donc moi hier j'ai regardé l'interview de...
Comme Jean-Luc Mélenchon.
Oui, c'est vrai.
J'ai regardé l'interview de Jean-Luc Mélenchon. Enfin voilà, je trouvais que c'était carré, un programme. Même si je pense que ce programme, il faudra le faire évoluer, parce que moi j'ai aussi des idées. Mais je trouve que c'est clair. Après, vous avez le comité de ceux qui veulent organiser la primaire, enfin le comité des primaires permanents. À un moment donné, il faut appeler à la responsabilité. Il y a un candidat de gauche qui a fait quand même il y a 5 ans plus de 22%, qui était pas loin du second tour. À un moment donné, enfin, il faut se rassembler, il faut un programme.
Mais est-ce qu'il incarne toute la gauche, Jean-Luc Mélenchon?
En tout cas, il incarne une grande partie. Et à un moment donné, ils avaient besoin de Jean-Luc Mélenchon pour les élections législatives, ils faisaient bien appel à la France insoumise. Donc je comprendrais pas pourquoi ceux qui veulent absolument la primaire, comme Alexis Corbière, qui lui-même avait écrit un livre que la primaire, ça ne servait à rien. Que Marine Tondelier qui soit
la primaire, c'est un petit peu le rassemblement des seconds couteaux, hein. Parce que en fait, c'est tous ceux qui ont besoin d'une primaire pour exister. Enfin, c'est un peu ça.
Pardon, Olivier, critique Mélenchon, mais il propose rien. Je veux dire, ils sont tellement nuls que, à part critiquer Jean-Luc Mélenchon,
si Olivier Faure était populaire, il ferait pas de primaire. C'est-à-dire, s'il voyait que dans les sondages ça décollait pour lui, il ferait pas de primaire. Pareil pour Monsieur Ruffin. C'est-à-dire que ils se disent, la seule façon de sortir du lot, c'est une primaire.
Les gens ne connaissent même pas Olivier Faure.
Oui,
il peut se balader boulevard Haussmann.
C'est une offre de gauche qui soit vraiment de gauche pour vous, qui soit claire, quoi.
Qui soit clair, qu'il y ait une rupture, qu'à un moment donné on sait où on va, parce que là avec ceux qui veulent organiser la primaire, on ne sait pas, on ne sait même pas quel est leur programme, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent se rassembler. Alors quand ils veulent pour les législatives, là ils savent vous taper, ils vont aller voir la France insoumise. Oui, bonjour, on voudrait des postes là. Enfin non, à un moment donné. Il y a une responsabilité, parce que c'est les mêmes qui vous parlent de l'extrême droite, alors qu'ils favorisent l'extrême droite, le fait de ne pas se rassembler derrière Jean-Luc Mélenchon.
Et Farouk, vous voyez Jean-Luc Mélenchon faire quel score au premier tour?
Moi, je pense qu'il sera au second tour, et puis après, je pense que tout sera possible au second tour.
Jordan Bardella?
Bah écoutez, Jordan Bardella, enfin, vous avez vu, en géographie quand même, ça confond le gasoil.
Oui, mais aujourd'hui, c'est le mieux placé, Jordan Bardella. Après, on pense ce qu'on veut du candidat, parce que tout à l'heure, Charles disait que c'est le meilleur candidat pour faire gagner Bardella.
On verra. Farouk, la discussion ne fait que commencer, vous en doutez. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Jean-Luc Mélenchon, candidat 2027. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Oui ou non? On va voir ce que vous en pensez. On en a parlé un quart d'heure. Vous dites non à 60,7% de la perspective de 2027. On va continuer d'en parler dans un instant avec la journaliste éditorialiste Natacha Polony. La France, corps et âme, c'est son nouveau livre aux éditions Plon. À tout de suite avec Les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules.